Bonjour, c'est Pascal Solière et c'est l'épisode 22 de ITcast du 20 novembre 2016. Cette semaine avait lieu la conférence Docker, la DockerCon, à Barcelone. Quasiment en même temps, hier, nous annoncions la disponibilité des conteneurs Hyper-V dans Windows Server 2016 Technical Preview 4. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Jérôme Petazzoni de Docker, qui a bien voulu répondre à mon invitation malgré une semaine très chargée. Et avec lui, nous revenons sur les annonces de la DockerCon. Et on parlera entre autres de sécurité, de qualité, de mise en production, de scalabilité, mais aussi de Minecraft, eh oui, et puis de Unikernel. Tout de suite, Jérôme Petazzoni. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en ligne avec Jérôme Petazzoni. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Donc Jérôme qui a bien accepté très gentiment de venir nous parler aujourd'hui de Docker, puisqu'il est, et son titre officiel est Tinkerer Extraordinaire chez Docker, ou autrement dit un évangéliste, hein, c'est ça Jérôme?
Tout à fait.
Et si je t'ai demandé et que tu as accepté de venir nous parler aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, en début de semaine, lundi et mardi, à Barcelone avait lieu la DockerCon, donc la conférence européenne de Docker, qui a eu lieu sur deux jours avec des présentations, des keynotes. Et d'ailleurs, tu as également profité de ton séjour en Europe, puisque tu es basé à San Francisco, pour venir parler également à l'Open Source Summit à Paris, en région parisienne, cette semaine également. Sur Docker d'ailleurs également. Et donc Jérôme, ce que je voudrais un petit peu qu'on aborde, c'est les grands thèmes, les grandes annonces qui ont été faites lors de la DockerCon, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées. Et dans quel ordre penses-tu qu'il serait mieux qu'on aborde un petit peu ces annonces?
Ah oui, je pense qu'on peut se contenter de ne pas être très original et faire par ordre chronologique.
Eh bien, allons-y.
Voilà. On a axé nos annonces lundi et mardi, enfin, ce lundi et mardi, avec lundi un gros focus sur la sécurité et la stabilité de Docker et de son écosystème, et mardi davantage autour du Docker Universal Control Plane, donc qui est une série d'outils, une plateforme pour gérer des containers. Donc le premier jour, stabilité et sécurité. C'est un signe en fait qui est envoyé, je dirais, à l'ensemble de l'écosystème Docker pour montrer que stabilité, sécurité, qualité, c'est des choses qui maintenant comptent énormément, qu'on fait passer en premier devant les features très clairement. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui depuis la sortie de Docker 1.0, c'est-à-dire en juin 2014, réclament à corps et à cri le support réseau entre plusieurs machines Docker et qui s'attendaient à voir arriver ça en juin 2014. Et là, ça vient d'arriver il y a deux semaines dans la version 1.9 du moteur Docker. Et ça, c'est justement parce que on a préféré avant tout mettre en avant la stabilité et la qualité du moteur plutôt que de jeter des brouettes de features dedans et ensuite devoir t'en mordre les doigts parce que ça marche pas ou que ça correspond pas à ce qu'il fallait, etc. Ça s'est vu aussi, plus Docker avance et plus le cycle de release se ralentit parce que justement, on est loin des versions du début, 0.1, 0.2, 0.3, où à chaque fois tous les mois on a une nouvelle version avec une tonne de features. Là maintenant, on a vraiment on se préoccupe de cette stabilité avant tout. Alors ça se reflète donc d'une part par rapport à notre processus de release, comme je viens de décrire, mais aussi avec donc tout ce travail autour de la sécurité et cette démo extraordinaire qui a été faite lundi matin en montrant comment utiliser des clés en fait stockées dans des petites clés USB matérielles pour pouvoir générer des clés de signature d'image Docker. Donc ça, en clair, ça veut dire que on va pouvoir signer une image de container de manière à ce qu'ensuite, quand on distribue cette image, la personne qui va exécuter cette image puisse bien s'assurer qu'elle vient de l'auteur légitime de l'image et que l'image n'a pas été interceptée entre-temps pour être modifiée afin d'y ajouter du malware, etc. Et cette utilisation, en fait, cette généralisation d'avoir un petit token matériel, alors déjà, juste pour préciser, même si effectivement on a fait la démo avec une YubiKey de chez Yubico, ouais, et même si effectivement pour diffuser un petit peu ça, on a offert une de ces clés à chacun des 1500, 1600 participants, ça marchera aussi avec d'autres dispositifs, bien entendu. Et en fait, cette généralisation d'avoir un petit dispositif matériel, c'est le 2FA, le two factor oath, où le but, c'est d'avoir non seulement something you know, donc quelque chose que l'on sait, donc un mot de passe, mais aussi something you have, quelque chose qu'on a, donc un dispositif matériel. Ce qui veut dire que même si quelqu'un arrive à connaître le mot de passe, s'il n'a pas en plus le dispositif matériel, il pourra pas en l'occurrence signer un container. Ça, c'est un mécanisme qui, je pense, dans les entreprises ou les organisations qui se préoccupent beaucoup de sécurité, ça n'a rien de surprenant. Je pense que dans ces organisations, on a une généralisation justement de l'utilisation de ces tokens, souvent en USB maintenant parce que c'est le plus simple, qui permettent de générer des one-time passwords, des mots de passe à usage unique, ou tout simplement donc nécessiter que le token soit présent quand on a besoin de s'identifier ou de faire une opération sensible. Donc c'est même pour les gens que ça peut surprendre de dire tiens pourquoi est-ce que il faut ce petit truc USB là, etc. Ça s'inscrit dans une logique un peu de suivi des bonnes pratiques en termes de sécurité.
Tout à fait.
Voilà.
Et ça inclut également le mécanisme qui est absolument nécessaire de révocation. Dans la démonstration, le développeur publiait par mégarde ou par méconnaissance sa clé publiquement, quoi. Et donc, il y avait un mécanisme de rotation, donc en gros de révocation hein, de la clé qui avait été publiée par erreur, quoi.
Exactement. Ça fait partie un petit peu de l'ensemble de l'histoire. Il y a une chose déjà qui est très très importante, c'est que la sécurité, avant même d'être efficace, elle doit être utilisable, elle doit être facile à utiliser. On a une sécurité qui est béton, mais que la mettre en œuvre, ça complique énormément le travail des utilisateurs, les utilisateurs vont la contourner. C'est-à-dire que si jamais on demande à l'utilisateur d'apprendre par cœur un mot de passe de 16 caractères avec des majuscules, des minuscules, des symboles, des chiffres, etc., le résultat direct, immédiat et inévitable, c'est un post-it sur l'écran avec le mot de passe. Donc ça, la plupart des responsables sécurité intelligents l'ont compris. Et donc, la réponse, c'est on va plutôt que de demander aux gens de retenir 15 mots de passe, on va leur en demander de retenir un seul. Et ensuite, on va utiliser, par exemple, un password manager qu'on va utiliser comme portefeuille de mots de passe, entre guillemets. Et là, c'est un petit peu la même idée, c'est de dire, bon, comment on peut faire pour avoir un mécanisme qui va avoir le même niveau de sécurité que si on demandait aux gens d'apprendre un mot de passe impossible à retenir, mais de manière utilisable, de manière à ce que pour les gens, ce soit aussi simple que, en l'occurrence, il s'agit exactement d'appuyer sur un bouton, quoi. Donc, c'est ça l'enjeu, en fait. Et puis ensuite, effectivement, il y a la révocation, parce que la sécurité, c'est pas seulement avoir quelque chose de béton, mais c'est aussi de prévoir le pire, c'est-à-dire prévoir qu'est-ce qui se passe si, comme on l'a vu dans la démo de lundi matin, le développeur se plante et upload ses clés sur GitHub avec un mot de passe bidon. Et donc, il faut pouvoir réagir à ça, il faut pouvoir survivre, entre guillemets, à une compromission de clés. Et donc, c'est cette aussi des démonstrations qu'on a faites pour montrer que faire une rotation de clés, c'était assez facile et assez rapide à faire.
Dans un autre domaine de la sécurité, j'ai également retenu le projet Nautilus, donc une analyse statique du contenu de container, hein, si j'ai bien compris le principe.
Tout à fait.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément et qui m'a fait vraiment plaisir quand j'ai vu qu'on allait travailler là-dessus, en effet, parce que ça fait depuis assez longtemps que lorsque je parle de sécurité dans Docker, j'ai toujours à la fin un slide un petit peu en mode prospective en disant, bah tiens, comment on pourrait continuer d'améliorer la sécurité dans Docker en particulier, mais les containers en général. Et il y avait un bullet point qui était, bah, comme on va lancer des containers à partir d'une image, on pourrait en fait faire l'analyse de sécurité sur ces images sans avoir accès au serveur de production. Et ensuite, on a des moyens techniques pour forcer ces containers à être, par exemple, en lecture seule. Donc, ça veut dire que je peux être sûr que ce qui est en train de s'exécuter sur mon serveur, c'est exactement l'image à l'identique au bit près que j'ai sur ma bibliothèque d'images. Et donc, plutôt que de devoir me connecter au serveur et faire une analyse à chaud, bah, je peux me connecter à ma bibliothèque d'images, télécharger l'image, l'analyser et ensuite dire « Ah, cette image, elle est fiable » ou alors « Ah non, il y a une vulnérabilité dans tel logiciel ». Et donc, du coup, le fait qu'on ait avancé sur ce terrain-là, c'était assez génial. Il y a quelques temps, par exemple, il y a une annonce qui a fait un petit peu de bruit, qui est sortie pour dire oui, il y a jusqu'à 30% des images dans la bibliothèque Docker qui ont des vulnérabilités, etc. Ça va pas du tout. En fait, ma réponse à ça, c'est que en fait, c'est très bien. C'est pas très bien qu'il y ait 30% d'images avec des vulnérabilités, évidemment. Par contre, c'est très bien qu'on ait ce chiffre précis et que c'est pas un chiffre qui sort d'un chapeau, justement. C'est une analyse exacte qui a été faite sur toutes ces images. Donc, ça veut dire qu'on sait lesquelles ont une vulnérabilité. Donc, ça veut dire qu'on peut s'attaquer au problème. On a une métrique et on peut la faire descendre. On peut faire baisser ce chiffre pour le faire tendre vers zéro. Ce qui est infiniment mieux qu'aujourd'hui, si on va chez n'importe quel hébergeur et qu'on lui demande combien vous avez de pourcents de serveurs qui sont vulnérables. La réponse, c'est qu'il n'en a strictement aucune idée. Parce que c'est impossible à savoir. Ça impliquerait de pouvoir se connecter sur l'ensemble des serveurs, de pouvoir faire une analyse sur tous ces serveurs. Ça serait extrêmement intrusif. Donc, c'est impossible. Là, on a une métrique qui est fiable, qui est précise, qu'on peut reproduire. On peut refaire les tests au fur et à mesure qu'on améliore la finesse de notre crible de détection. Et ça, c'est assez extraordinaire, en fait. Et c'est ce genre de métrique avant qui était l'apanage d'organisations qui avaient des budgets sécurité extrêmement importants et qui pouvaient se permettre d'avoir sur chaque serveur un agent, quelque chose qui tourne et pour faire de l'analyse de sécurité en live. Donc ces techniques assez avancées deviennent accessibles pour tous. Donc Nautilus, voilà, ça va permettre de connaître les vulnérabilités existantes dans des images. De les connaître de manière assez précise, c'est-à-dire de savoir telle image, il y a exactement tel paquet ou telle bibliothèque qui a exactement tel problème, tel CVE avec le numéro d'identification de la vulnérabilité, oui. Et ça permet ensuite de corriger cette vulnérabilité et d'améliorer la sécurité du système.
Et donc c'est un moteur d'analyse qui a été écrit chez Docker ou vous avez récupéré quelque chose qui existait par ailleurs ou...
Alors, on travaille avec plusieurs partenaires là-dessus. Je suis moi-même pas directement dans l'équipe qui travaille sur Nautilus, donc je sais pas exactement comment ça marche. J'ai une assez bonne idée de comment je devrais faire si jamais je devais implémenter un système de ce genre, mais j'ai pas discuté de très près avec l'équipe qui implémente ça. C'est le revers de la médaille de la croissance du Docker aussi. Quand j'ai rejoint la société, on était 6, on était dans une salle de réunion, dans un coworking space, tous autour d'une grosse table. Maintenant, on est un peu plus de 200, quasiment 220, je crois. Et voyageant par ailleurs beaucoup pour justement aller dans des conférences, etc. Il y a une période où à chaque fois que je revenais au bureau à San Francisco, je reconnaissais pas la moitié des visages que je croisais. et donc, j'ai pas beaucoup de détails techniques pour satisfaire votre curiosité sur Nautilus.
C'est bon signe quand même, cette évolution.
Tout à fait.
Donc en matière de sécurité, voilà deux choses qui sont intéressantes, hein, la signature et puis l'analyse statique. C'est la sécurité, hein, c'est pas un outil, c'est toujours des boîtes à outils et des procédures et des hommes et voilà, tout ça va dans le bon sens. En début de keynote, ils ont fait une démo également d'utilisabilité entre guillemets, c'est-à-dire comment un développeur fraîchement arrivé dans l'entreprise peut avoir un poste opérationnel très rapidement, et ils ont fait la démo sur un poste Windows. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai remarqué que c'était un Surface Book tout neuf avec Windows 10. Et donc c'était pas mal de voir également que on peut installer très rapidement tout ce qu'il faut pour travailler avec des conteneurs Docker sur une machine, quel que soit son OS en fait.
Tout à fait. Là, je dirais que le dernier chaînon manquant qu'on n'avait pas sous Windows juste avant ça, c'était Compose, qui est l'outil qui permet justement d'assembler une application formée de plusieurs containers aussi facilement que ça. Cette démonstration, en fait, on a fait presque exactement la même il y a un mois à reInvent, la grand-messe d'Amazon à Vegas. Mais à l'époque, c'était sur un Mac, puisqu'on n'avait pas encore Compose sur Windows. Mais c'était exactement la même histoire. C'était, bah, regardez, je suis développeur. C'est mon premier jour, en fait, dans une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe, à bosser sur un nouveau projet. Tout ce que j'ai à faire, c'est télécharger et installer cette Docker Toolbox. Mm-hmm. Donc, je télécharge, c'est un clic, ensuite j'installe, c'est en l'occurrence, je crois que sous Windows, il fallait faire 5 clics pour faire suivant. Mais bon, c'est pas la mer à boire. Et une fois que j'ai installé cette Docker Toolbox, je récupère mon dépôt de code, donc Git clone ou HG clone, enfin, ce qu'on veut utiliser. Oui. Et après, on fait Docker Compose up. Et quelques minutes plus tard, le temps de télécharger les composants, etc., on a notre application qui tourne. Et ce, complètement indépendamment de l'OS, l'environnement, etc. C'est assez magique. On retrouve un petit peu cet effet instantané qu'il y avait il y a quelques années, par exemple, avec Vagrant, mais je dirais revu un peu à la sauce peut-être microservice, et en tout cas plus adapté aux containers. Mais c'est cette même chose où je récupère mon code, je fais une commande, et ça y est, j'ai toute mon appli qui tourne sans que j'aie à me préoccuper de exactement de ma configuration d'environnement. Est-ce que j'ai bien toutes les bibliothèques? Est-ce que j'ai bien installé les dépendances? Et donc ça, maintenant, c'est disponible aussi sous Windows, en effet.
Avec les aspects réseau et volume également qui sont inclus pour Windows, hein, si j'ai bien retenu.
Tout à fait, oui, puisqu'on a, exactement le même moteur Docker avec les mêmes fonctionnalités. Quel que soit l'environnement, puisqu'en l'occurrence là aujourd'hui, quand on va faire tourner cette Docker Toolbox sur Windows ou OS X, on fait tourner une petite machine virtuelle Linux qui est un petit peu cachée sous le tapis et qui fait tourner les containers, mais à laquelle on parle avec des outils natifs, c'est-à-dire que quand on va utiliser la CLI Docker ou Docker Toolbox, Kitematic, etc., on va les faire tourner en local sur la machine, donc on va pouvoir utiliser nos outils préférés. Le Sublime Text, Visual Studio, etc. Sur notre machine, mais ensuite, dès qu'on va exécuter quelque chose, ça va se passer dans ce container de manière transparente.
Mmh. Ouais, techniquement, il y a une machine virtuelle, VirtualBox, hein, si je ne m'abuse, que ce soit sur Mac ou Windows.
Exactement, c'est ça.
Ouais. Donc ça installe, en fait, le Toolbox installe VirtualBox sur la machine.
Voilà.
D'ailleurs, à propos de Windows, donc je n'ai pas pu voir, je crois que ça n'a pas été encore proposé en replay, la session de Arnaud Portery, c'est ça, hein, son nom,
oui.
Sur le portage donc, de Docker sur Windows Server. Bon, on la verra, j'espère que ce sera disponible en replay plus tard.
Bien sûr.
Pour tous les aspects de fonctionnement sur Windows, Windows Server. Et ça tombe bien en plus parce que c'est l'actualité. On a annoncé hier la disponibilité donc, de la Technical Preview 4 de Windows Server 2016. Et donc, dans les jours qui viennent, jours et semaines qui viennent, et on va beaucoup en parler, en tout cas de notre côté Windows, des nouveautés et donc des nouveautés de Docker sur Windows Server. Et notamment, je sais qu'il y a eu une démonstration donc par Arnaud de Compose, donc d'applications multi-containers avec des containers Windows et des containers Linux.
Oui, ça fait partie de cette idée. Souvent, quand les gens demandent, mais alors les containers Docker sous Windows, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire tourner nos containers Linux sous Windows? La réponse est non, mais le principe, en fait, c'est de faire tourner Windows sur Windows, Linux sur Linux, mais d'avoir le même plan de contrôle, la même API, les mêmes outils, les mêmes tableaux de bord, etc., pour contrôler l'ensemble. Et donc, en tant que ops devant mon tableau de contrôle, quand je vais lancer un container, j'ai pas besoin de savoir si c'est un container Windows, Linux ou autre. Je lance ce container et ensuite, c'est mon système d'orchestration, d'ordonnancement qui va dire « Ah, ça, c'est un container Windows, donc je vais l'envoyer sur une machine Windows. Ça, c'est un container Linux, je l'envoie sur une machine Linux. » De la même manière que, de temps en temps, par exemple, on a des workloads qui demandent des machines avec beaucoup de CPU ou beaucoup d'I/O, donc on va les déployer sur du SSD. Et à ce moment-là, le système d'ordonnancement va choisir des machines adéquates en fonction du type de performance dont on a besoin. Donc c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, au lieu d'être pour raison de performance, je m'exécute à cet endroit-là, c'est pour raison de d'architecture ou de système d'exploitation, je m'exécute à cet endroit-là.
D'accord. Puisqu'on parle de... On évoque un petit peu le côté scalabilité, hein, passage à l'échelle. Swarm 1.0, Ready for Production, a été annoncé.
Tout à fait.
Donc, avec une belle démo également, très visuelle celle-ci, de où on voyait 1000 nœuds exécuter 50 000 containers.
En fait, ce qui a été assez une très très bonne surprise, c'est que ça n'a pas demandé de travail particulier en fait pour passer à cette échelle-là. Au début, en fait, les gens qui travaillent sur Swarm, en particulier les deux créateurs du projet, Andrea Luzardi et Victor Vieux, qui d'ailleurs étaient aussi parmi les premiers à avoir travaillé sur le moteur Docker. Hein. Andrea, c'est lui qui a écrit les premières lignes de code de Docker en Go, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et au départ, ils avaient une approche plutôt assez modeste, de dire, bah voilà, Swarm, ça va permettre d'orchestrer des petits clusters. Puis à un moment donné, on leur a demandé de faire des tests à plus grande échelle. Et Andrea m'a raconté que on a rajouté des machines. Et puis à un bon moment, on est arrivé à la taille maximum qu'on pouvait lancer sur Amazon. On avait droit à 1000 machines. Puis bah ça marchait, sans faire aucune modification particulière, aucun tuning particulier, etc. Si je me rappelle bien les chiffres qu'il m'a donné, arrivé à peut-être 2000 machines et quelques, là il a fallu commencer à corriger un petit peu des choses sur le manager Swarm. Je ne me rappelle plus des détails exacts, mais qui commençait peut-être à avoir un petit peu de mal à traiter les mises à jour venant des 2000 nœuds. Mais c'était donc cette démo, il y a eu du boulot pour faire les tests, mais il n'y a pas eu genre des modifications énormes à faire dans Swarm pour arriver à ce travail. Donc c'était une très agréable surprise.
Belle démo également, bien visuelle dans la plénière. Sur le jour 1, est-ce qu'il y a d'autres choses à évoquer sur l'aspect sécurité, qualité, etc., passage à l'échelle?
Sur la sécurité, un dernier point, c'est oui. Qu'on a deux fonctionnalités qui étaient aussi attendues depuis très longtemps, qui sont les user namespaces et une autre un petit peu moins connue, l'intégration avec SecComp, qui sont pour les gens qui se préoccupent beaucoup de la sécurité au sens isolation, c'est des choses qui étaient aussi attendues depuis un bon moment. Alors, ces deux features, user namespace et SecComp, ne sont pas encore dans la version stable de Docker, c'est dans la branche expérimentale, mais ça veut dire qu'elles vont atterrir maintenant très bientôt dans la branche stable. Et ça, c'est une assez bonne nouvelle parce que c'est des choses qui étaient attendues depuis assez longtemps et qui avaient été repoussées. Par exemple, user namespace, ça a été on voudrait bien un user namespace, mais il faut attendre la prochaine release de Go pour des raisons. Technique assez bas niveau. Ensuite, c'est on est prêt à rajouter des user namespace, mais c'est censé améliorer la sécurité, sauf qu'on vient de trouver des vulnérabilités côté noyau dans l'user namespace. Donc, on repousse encore un peu.
D'accord.
Mais là, enfin, ça y est, ces deux fonctionnalités arrivent. Donc, pour les gens qui se préoccupent d'isolation, c'est une très bonne nouvelle.
D'accord. Donc, je ne connais pas ces fonctionnalités, mais donc, ça améliore l'isolation entre containers sur une même machine.
Voilà.
Ok. Donc tu disais tout à l'heure que le deuxième jour était plus consacré à l'aspect mise en production et fonctions d'entreprise qui vont intéresser plutôt les entreprises dans leur mise en production, en volume, etc. Donc quelles sont les annonces particulières qui ont été faites?
Alors le deuxième jour c'était consacré donc au Docker Universal Control Plane. Donc qui vise à être une solution de gestion des containers, de leur cycle de vie, etc., pour des organisations un peu plus, disons, en anglais, enterprise, donc avec toutes les contraintes de gouvernance, de qui peut faire quoi. Donc, on est plus vraiment dans le côté petite équipe ou côté startup où tout le monde peut faire un peu tout et n'importe quoi. Là, on est plutôt justement souvent on dit en plaisantant qu'un produit va être enterprise ready une fois qu'il y aura l'intégration LDAP. Bon, bah là, justement, il y a de l'intégration LDAP.
D'accord.
Mais en même temps, ce côté self-service, c'est-à-dire, le but, c'est pas d'avoir un mécanisme où un développeur va devoir remplir un formulaire pour demander ensuite à l'IT de voir, etc. C'est plutôt de permettre à l'IT d'autoriser aux développeurs, voilà, vous pouvez déployer tel genre de container, tel genre d'image. Voilà les actions que vous pouvez faire sur la plateforme pour qu'ensuite les développeurs soient à même d'utiliser, de consommer cette plateforme de la manière la plus efficace possible. Ça résulte de l'acquisition récente de Tutum, qui est une plateforme comme ça de gestion de containers, et surtout avec un accent assez fort sur on va appeler ça Docker native, parce que je sais pas si vous avez suivi les annonces depuis l'été dernier, on a parlé de cloud native application, là on a, pour faire un peu un clin d'œil à ça, je crois qu'on parlait de Docker native environnement.
Ouais.
Où l'idée c'est d'avoir un ensemble d'outils, une plateforme qui est vraiment faite par et pour l'écosystème Docker, pour avoir la meilleure gestion possible des containers et de leur cycle de vie.
D'accord. Est-ce que comment ça se compare à d'autres systèmes qu'on connaît dans la nature, par exemple, je pense à Mesos ou enfin le DCOS de Mesosphere ou d'autres comme Kubernetes, etc. Comment ça se positionne par rapport à ces systèmes proposés par des tierces parties?
Alors, prendre ce que je vais dire avec un grain de sel, parce que c'est quand même des produits qui sont assez larges, en spectre assez complexe,
oui.
Et qui évoluent assez vite, mais le principe de ce Docker Universal Control Plane, c'est d'être vraiment une solution complète. Donc, par exemple, aujourd'hui, Mesos en soi, ça va être surtout la partie orchestration, ordonnancement des ressources. Ensuite, DCOS, ça rajoute une surcouche qui fait qu'on s'approche déjà davantage de ce que peut être le control plane Docker. Mais Mesos va être plus adapté à des workloads, enfin, containers ou non-containers. Mais Mesos n'est pas vraiment container native.
Oui.
Ça va gérer aussi d'autres types de choses. Et comme d'habitude, hein, plus on se concentre sur une problématique particulière, mieux on peut l'adresser. Donc là, pour les gens qui justement sont bien dans l'écosystème Docker, etc., vraisemblablement le DUCP va répondre davantage à leurs attentes que Mesos. En revanche, ce que je dis souvent quand les gens me demandent alors est-ce que je dois prendre Mesos ou pas ou etc. Bah, pour les gens qui ont déjà des clusters Mesos en production et qui veulent rajouter des workloads Docker, ma réponse oui, il y a une intégration qui est là pour ça, qui est très bien. Après, par contre, monter un cluster Mesos de zéro juste parce qu'on veut faire du Docker, pas forcément la solution la plus adaptée. Après, par
D'accord.
rapport à Kubernetes, ça va être difficile de répondre parce que c'est aussi un projet qui évolue très vite, hein, je pense que aussi vite que Docker, donc je pense que le temps que ma phrase soit terminée sera peut-être plus encore plus tout à fait exact. Mais Kubernetes, pour l'instant, a une approche très ops, donc on a des images de containers, bah ok, maintenant on va les déployer sur un cluster, on va gérer load balancing, la service discovery, le failover, la reprise d'incident quand il y a un bug qui crash, etc. Par contre, ça ne gère pas encore ce côté cycle de vie d'un container, construction d'un container, et l'image assez visuelle, ce serait d'imaginer ce container qui va aller partir du poste des développeurs pour aller ensuite en test, QA, pré-prod, etc. Là où justement, avec DUCP, on veut pouvoir embrasser l'ensemble de ce cycle, incluant, on veut autoriser les images qui ont été signées par tel développeur ainsi que telle personne de l'IT, etc., à s'exécuter sur tel cluster, etc., etc. C'est ça, en fait, à terme, DUCP. C'est vraiment d'avoir quelque chose de... comment compréhensif, c'est un anglicisme, d'exhaustif sur la gestion du cycle des containers.
Ouais. Et ça s'adresse à la fois aux développeurs et aux ops. Et donc, quand on est en train de mettre en place une démarche DevOps, ça peut être adapté. C'est tout à fait adapté.
Tout à fait.
Donc, c'est en bêta, public bêta.
Voilà.
Je mettrai évidemment tous les liens pertinent sur l'article associé à l'épisode. Et je vois qu'il y a notamment un webinar consacré à Universal Control Plane pour en savoir plus. Et donc, Jérôme, ce deuxième jour, je crois qu'il y a eu un retour très enthousiaste sur une série de sessions très techniques ce deuxième jour, dont une que tu as faite toi-même. Est-ce que tu peux nous dire deux mots un petit peu de ce track, de ce fameux track technique du deuxième jour?
Alors, c'était sur les 2 jours. Hein, et
ah, pardon, c'est
les
2 jours.
Pas de souci. C'était pour répondre en fait à une des remarques qu'on avait eues lors de la dernière DockerCon, de gens qui disaient bon, ça manquait un petit peu de track technique vraiment trapu. Et on a bien entendu ce feedback et on a donc monté ce track Black Belt Tech. Où on a invité beaucoup d'intervenants extérieurs, pas forcément des propositions d'intervention spontanées comme ça, pour venir parler, de choses techniques dans le monde des containers, mais pas seulement, et surtout pas forcément dans le monde de Docker. Donc, par exemple, on avait un ancien de Yandex hein, qui est venu nous parler d'IPVS, qui est un système de load balancing qui a des performances extraordinaires et qui, en l'occurrence, était appliqué à Docker, mais qui n'était pas plus que ça spécifique à Docker. On a eu quelqu'un de chez Odin, enfin, Virtuoso Parallels, qui est venu parler de migration à chaud de containers. Moi, j'ai fait une introduction aux briques de base des containers, les namespace et les cgroup, etc., etc. Et donc, on a eu des très bons retours sur ce track, pas forcément plus que notre track, mais je pense que ce qui était vraiment bien, ce qu'on a réussi, moi, ce qui m'a rendu vraiment ravi dans ce track-là, c'est que ça nous a permis d'élargir un petit peu le spectre pour être sûr qu'à tout instant, en fait, pendant cette conférence, quelqu'un qui vient à DockerCon, qui soit intéressé par ces aspects super techniques, ou bien qu'est-ce qu'il y a de nouveau demain dans Docker, ou bien c'est quoi les use cases, les gens, les clients de Docker, ou bien etc. Il y a toujours quelque chose qui se passe à un moment donné. L'idée, c'est que personne reparte en se disant bon, DockerCon, non, c'était pas bien parce qu'il manquait ça. C'est vraiment d'apporter tout ça. Et donc là, ce track, c'était un de ces exemples. Ensuite, ça serait un petit peu injuste de faire un coup de projecteur sur un track ou sur un talk particulier parce que le but, c'était vraiment d'offrir quelque chose à tout le monde. Et on a d'ailleurs aussi réussi ça assez bien avec le mélange communauté et entreprise, partenaires commerciaux. Quand on se baladait sur le Expo Floor, là, on avait tous les stands exposants, communauté, etc., on sentait bien cette espèce d'énergie, cette espèce de mélange à la fois donc de communautés, de gens qui sont là, mais qui connaissent l'écosystème, et puis aussi d'entreprises, de partenaires. Très bonne synergie et c'est quelque chose qu'on espère pouvoir maintenir dans la durée parce que la communauté, c'est ce qui a fait Docker au départ. Docker sans sa communauté n'existerait pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut arriver à prendre le relais du côté commercial, évidemment, parce que sans cette partie commerciale, Docker ne continuera pas.
Bah oui.
Donc, il faut arriver à marier.
Ouais. Et puis pour terminer, il y a deux démos que j'ai vues en live sur le streaming de la DockerCon. C'est une démo d'une nouvelle interface graphique pour Docker qui était absolument fabuleuse. Alors ça j'ai beaucoup aimé. Qui utilise quelque chose qu'on connaît bien chez Microsoft, qui est Minecraft.
Tout à fait. C'est une démo à très grosse portée, je dirais, culturelle, pas forcément technique, puisque faire un client Minecraft, mais par contre, cette portée culturelle, donc pour ceux qui n'ont pas vu la démo, on se connecte avec un client Minecraft sur un serveur Minecraft qui en fait est intégré à Docker, ce qui veut dire que les containers qui s'exécutent sur notre machine, on les voit dans Minecraft comme des containers qui sont alignés comme ça. Et donc avec notre petit personnage dans Minecraft, on peut rentrer dans le container, on voit les infos du container, son identifiant, etc. Puis il y a des gros leviers pour contrôler le container. Donc on peut bouger le levier et hop, ça va éteindre le container.
Ouais.
On ressort du container, il a changé de couleur, etc. Et ça donc, culturellement, ça a une portée symbolique énorme. Moi, ça m'a instantanément rappelé des projets comme PS Doom, et puis deux autres qui étaient basés sur Quake et puis le moteur de Wolfenstein. PS Doom, par exemple, qui permettait de se balader dans Doom. Donc ça parlera pas aux plus jeunes d'entre nous. Mais
ça me parle.
pour ceux qui avaient un PC dans les années 90, on se trimbalait donc dans le monde de Doom et puis il y avait des monstres qui apparaissaient qui correspondaient au process de la machine et puis en leur tirant dessus, on pouvait arrêter les process. Et en fait, donc l'arrivée de quelque chose de ce type, c'est une espèce de symbole pour dire que Docker et Minecraft ont arrivé un petit peu à cette espèce de masse critique dans la culture aujourd'hui de l'informatique, je dirais la culture populaire informatique, entre guillemets, peut-être. Mmh. Et en plus, effectivement, c'était assez hilarant de voir cette démo comme ça, en disant, bah voilà, mon container, maintenant, il correspond effectivement à quelque chose, je dirais pas tangible, puisque ça reste dans Minecraft, mais au moins, on peut le voir, c'est une grosse boîte, on peut rentrer dedans, il y a des leviers pour l'arrêter, le démarrer, etc. C'était très drôle.
Et en plus, en 3D également, puisque avec des lunettes de réalité virtuelle, c'était visible en 3D.
Exactement. Ouais.
Belle démo en tout cas. L'autre démo, c'était, c'était l'intégration dans des conteneurs Docker de Unikernels. Alors qu'est-ce que c'est que ces Unikernels, pour les gens qui ne savent pas tout à fait ce que c'est? Ouais.
Alors les Unikernels, en fait, ça part d'une idée qui n'est pas toute neuve, qui est de dire que quand on fait tourner une application, alors juste une application sur une machine, par exemple, ceci est une base de données SQL, ou ceci est un serveur web, et qu'on fait tourner rien d'autre, si on regarde bien, on a une grosse partie du système qui sert à rien. Et quand je dis le système, donc ça veut dire le noyau, etc. Parce que si on fait tourner par exemple un petit serveur web statique et qu'on veut juste servir des pages aussi vite que possible, bah, toute la partie file système, il y a plein de choses qu'on pourrait dégager. Et donc les unikernels, l'idée c'est de dire on va prendre notre application et au lieu de la compiler avec une bibliothèque standard qui ensuite parle à un noyau standard, mmh. on va la compiler sur une bibliothèque qui va directement parler ou bien au matériel ou bien à un hyperviseur. Alors la première fois moi, que j'ai rencontré les unikernels, c'était il y a quelques années, lorsque j'ai rencontré des gens qui faisaient tourner Erlang directement sur Xen. Donc Erlang qui est un langage assez ésotérique, mais réputé pour le côté fiabilité, système distribué. C'est utilisé par RabbitMQ, CouchDB, et puis d'autres React, enfin d'autres projets comme ça. Faire tourner Erlang directement sur Xen, donc ça veut dire hein, que quand on démarre notre machine virtuelle avec Xen, au lieu de booter un noyau Linux, NetBSD, Windows, etc., ça démarre directement donc Erlang et on démarre notre programme directement. Si ça vous parle pas, imaginez au lieu d'être Erlang que ce soit une machine virtuelle Java. Donc imaginez qu'on peut booter directement une JVM sur un hyperviseur. Alors dans le cadre d'Erlang, moi j'ai vu un effet waouh, ça c'est vraiment chouette, mais bon, il y a quand même pas énormément d'applications Erlang, donc ça s'adresse à une niche bien spécifique. Mmh. Et puis petit à petit, ces travaux qui étaient très orienté recherche avec peu d'applications se sont beaucoup élargis avec par exemple bon Mirage OS, donc on était un petit peu dans la même idée, sauf que Erlang c'était OCaml, et puis ensuite Rumkernel, où là déjà on commence à étendre un petit peu le domaine de la lutte, puisque on peut compiler non seulement pour exécuter en tant qu'unikernel sur un hyperviseur, mais aussi pour s'exécuter comme un binaire normal sur un système d'exploitation normal. Et c'est ce qui a été montré dans la keynote de clôture, cette démo où on fait tourner par exemple un serveur web Nginx ou un serveur MySQL en l'occurrence, ouais. dans un unikernel. Et cet unikernel ensuite, en l'occurrence dans la démo, il va s'exécuter dans un container Docker qui s'exécute sur une machine Linux normale. Mais cet unikernel, il pourrait être retargeté pour s'exécuter directement sur un hyperviseur. Ce que ça veut dire, c'est que on peut très bien imaginer ce scénario dans lequel je pourrais faire Docker run Nginx, sauf que cette fois-ci, au lieu de lancer Nginx dans un Docker engine tournant sur Linux comme on peut faire maintenant, mm-hmm. bah, quand je vais faire mon Docker run Nginx, en fait, je vais récupérer une image d'unikernel et la lancer directement sur un hyperviseur, que ce soit Xen, KVM, Hyper-V, etc. Donc ça veut dire que je vais me retrouver à avoir l'isolation qui va avec les hyperviseurs, mais sans me traîner un petit peu tout la lourdeur et l'overhead, le surcoût d'un kernel traditionnel. Là, dans la démo qui était faite, si je me rappelle bien, l'unikernel Nginx compressé, c'était 2 mégaoctets. Donc c'est une empreinte qui est vraiment toute petite, ça boot à une vitesse incroyable, c'est quelques fractions de seconde, et avec des caractéristiques d'isolation qui sont celles des machines virtuelles et non plus seulement des simples containers. Donc c'était une espèce de comment dire de portes un petit peu entrouvertes pour apercevoir le futur. Tout à l'heure, on disait, on sait qu'on aura des Docker Windows et Docker Linux. Donc, quand je ferai Docker Run ceci, Docker Run cela, ça tournera sur un Linux ou sur un Windows. Bah là, ça serait une troisième cible où quand je vais faire Docker Run coin coin et que coin coin en l'occurrence c'est une image unikernelle, et ben au lieu de s'exécuter dans un Docker Engine Windows ou un Docker Engine Linux, ça va s'exécuter sur un Docker Engine Xen, Hyper-V, KVM, enfin en tout cas dans un hyperviseur.
Tout à fait, et on imagine très bien que ça s'intégrera assez facilement avec les Hyper-V containers de Windows Server, oui, tout à fait.
Tout à fait, oui.
Et donc le principal gain hein, pour les opérationnels, ça va être d'exécuter sur des serveurs différents containers qui ne seront pas forcément au même niveau de sécurité, c'est-à-dire pouvoir avoir une isolation telle qu'on pourra faire de la colocation sur des serveurs communs, quoi.
Entre autres, il y a un renforcement de sécurité, mais aussi quelque chose d'assez léger. Ouais. Très souvent, quand on parle VM et containers, on part un petit peu avec en tête le côté manichéen. Les containers vont avoir moins d'isolation, mais être plus souples, plus légers. Les VM vont avoir davantage d'isolation, mais être plus lourdes. Il y a des efforts des deux côtés pour rendre les containers plus solides, pour rendre les VM plus légères. Et là, avec les unikernels, on se passe un petit peu au milieu, avec quelque chose qui est à la fois léger, qui a des bonnes caractéristiques d'isolation. C'est extrêmement intéressant.
D'accord, ok. Pour résumer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé qui sortait de cette conférence Docker?
Non, je pense qu'on a, on a fait un bon survol de tout ce qui s'était passé pendant ces deux jours à Barcelone. Maintenant, on se prépare déjà pour la prochaine édition en juin à Seattle.
Donc ça sera pour la fête de la musique, hein, 20 et 21 juin à Seattle, 2016.
En effet, je n'avais pas fait le rapprochement avec la date, puisque vivant maintenant en Californie, c'est vrai qu'on oublie un peu vite les grandes dates repères.
disons l'été, allez, donc, l'été.
Voilà, va falloir faire des choix difficiles. et on est arrivé à faire quelque chose d'aussi exceptionnel, aussi bien au niveau des annonces techniques, l'ambiance sur place, l'accueil de la communauté, etc. L'avenir nous dira si on peut renouveler le défi.
En tout cas, on a un partenariat assez fort entre Microsoft et Docker qui débouche sur des choses très intéressantes, et on ne manquera pas de revenir sur ce partenariat et ce qu'on fait ensemble et ce qui va être possible de faire dans l'année à venir, qui va être assez riche, je pense. Après la conférence, donc, tu es passé en France et donc tu es passé par la conférence, le Open Source Summit à Paris, pour faire une présentation en passant sur Docker également, qui concernait la virtualisation de stockage et de disques.
Voilà, en fait, j'ai fait plusieurs interventions au Summit, mais dont une présentation un petit peu technique pour parler des enjeux Docker côté stockage et réseau, en particulier les nouveautés de la version 1.9 du Docker Engine, donc sortie il y a quelques semaines, et parler des network plugins et puis des volume plugins, qui, pour faire très bref, permettent d'intégrer facilement dans Docker, d'une part le réseau multi-hôte qu'on a évoqué au tout début, là quand on parlait un petit peu du côté on préfère livrer tard une bonne feature plutôt que livrer tôt une mauvaise feature. Donc là, ça y est, on a livré le réseau, donc il y a possibilité d'avoir des containers qui s'exécutent sur plusieurs machines différentes mais qui peuvent communiquer entre eux directement. Et ce, en fait, via un mécanisme de plugin qui veut dire que si on veut intégrer ça avec de l'open switch, avec des équipements réseau particuliers, etc., ben, il y a ce mécanisme de plugin qui permet de le faire de manière transparente. Et donc, ça veut dire que pour la personne qui lance ses containers, c'est ben, je lance mes containers en utilisant le plugin X, Y ou Z au niveau réseau, mais j'ai juste à changer le type de plugin que j'utilise. J'ai pas besoin de changer mes containers, j'ai pas besoin de changer ma suite d'orchestration, etc., etc. C'est l'opérationnel qui a monté la plateforme, qui s'occupe de configurer les plugins, et après, ça marche tout seul. Et même chose au niveau stockage, je vais être capable de lancer des containers en disant je veux utiliser du stockage ISCSI, NFS, Ceph, Gloster, EBS, etc. Et c'est le plugin qui va s'occuper d'aller chercher ce stockage. Et donc, pour moi, développeur ou DevOps, disons, qui lance mes containers, les détails bassement matériels de savoir est-ce que là, mon volume, il vient d'un disque EBS parce que je suis sur Amazon ou bien d'un cluster de stockage Ceph, c'est un détail, en fait, qui va être masqué. Enfin, pour être plus précis, c'est pas qu'il est masqué au sens caché, c'est juste qu'il est abstrait au sens si je veux passer de l'un à l'autre, ça se fait en douceur. Voilà.
Écoute, Jérôme, je te remercie beaucoup sur le chemin du retour vers les États-Unis d'être passé par ce petit épisode de podcast.
Merci de m'avoir accueilli.
Et puis, donc, je te souhaite un bon retour. À San Francisco, et puis une belle année, et puis plein de bonnes choses.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Jérôme. Et donc, je donne rendez-vous dans 2 semaines à nos auditeurs. Au revoir, et merci beaucoup.
Au revoir.